Chapitre 5. Dans l'antichambre précédant l'appartement particulier de Dougal, Wu, son domestique chinois favori, somnolait sur le tapis. Il se leva tout à coup d'un mouvement souple en voyant une portière se soulever et le jeune Raja paraître sur le seuil. « Va me chercher, Willy !» ordonna Dougal tout en se dirigeant vers la pièce voisine. Wu se glissa au dehors avec la célérité que tous les serviteurs, et lui plus encore que les autres, apportaient à obéir au moindre signe du maître. Dougal entra dans le salon où il se trouvait déjà avant de descendre pour se joindre aux hôtes de son père. Il s'assit, alluma une cigarette, puis au bout d'un moment, il se leva et alla s'accouder à la balustrade de pierre de la fenêtre. La fête continuait. Sous ses yeux, à travers les parterres illuminés, Dougal voyait passer les couples costumés. Il se détourna tout à coup avec un geste d'impatience, juste au moment où entrait Willy. « Tu me fais attendre !»« Où a eu de la peine à me trouver parmi tout ce monde, maître ?»« Tu devais rester à portée de ma voix, où que j'aille. Je te ferai châtier. » Willy courba la tête, plia les épaules en murmurant « Pardon, Seigneur !» Dougal s'assit de nouveau. Obéissant à un signe de lui, Willy prit place à ses pieds sur un coussin. Pendant un moment, le jeune Raja resta silencieux, la cigarette entre les lèvres. Puis il demanda « Tu as vu la jeune personne costumée en hindou qui était avec moi ?»« Certes, Seigneur, tout le monde l'a remarqué. » « Tu n'as pas entendu dire que quelqu'un ait soupçonné qui elle était sous ce déguisement ?»« Non, Seigneur, au contraire, on semblait fort intrigué. » « Eh bien, Willy, il va falloir te mettre en chasse pour la retrouver, connaître son nom et sa demeure. Cette inconnue est une merveille. Elle me plaît et je la veux. » Entre ses paupières mi-baissées, Willy jeta sur son maître un regard surpris que remarqua Dougal. « Oui, une merveille !» répéta le jeune Raja. « Déjà, avant d'avoir vu son visage, j'avais remarqué sa grâce incomparable dans ce costume, un costume de vrai hindou, qu'elle portait si aisément. Le masque me laissait voir sa bouche délicate, si vite frémissante, et l'éclat de ses yeux. Je connaissais la rare chaude nuance de ses cheveux et la fine blancheur nacrée de ses bras, de son cou charmant. » J'avais entendu sa voix, pure et musicale, qui tremblait un peu en répondant à mes questions. Et quand je lui eus enlevé son masque, je ne fus pas désillusionné, au contraire. Après un court silence, pendant lequel il sembla évoquer une agréable vision, Dougal reprit « Ce doit être une très jeune fille. Je n'ai pu qu'entrevoir son visage, car tout aussitôt, elle s'est indignée contre mon geste et s'est enfuie à travers les jardins avec une légèreté de biche. » Elle s'est enfuie, répéta Willy d'un ton de stupéfaction. Dougal eut un léger rire d'ironie. Cela t'étonne, moi aussi, car c'est la première fois que pareille aventure m'arrive. Mais j'y trouve une seconde raison pour m'intéresser à elle. Un peu de résistance me changerait, donnerait plus de prix à cette fantaisie. Willy riposta avec un sourire sceptique. Je crois que vous n'aurez pas de peine à vaincre, Seigneur. « Peut-être la jeune personne n'est-elle qu'une très habile coquette. »« Peut-être, quoique vraiment ses yeux, qui sont admirables, me parussent très sincères dans leur indignation. Enfin, coquette ou non, elle m'a plu et il faut que tu la retrouves. »« Ce sera fait, maître. Je vais d'abord chercher dans les jardins. » »« Écoute, Willy, sa figure, si peu que je l'ai vue, ses yeux surtout, m'ont rappelé quelque chose. Et je me souviens maintenant. » À notre premier séjour ici, il y a 12 ans, comme je passais dans la lande près de cette vieille maison qu'on appelle Ticarec, un de mes chiens se jeta sur une petite fille qui en sortait et la mordit à la jambe. Je remarquai les yeux, singulièrement beaux et expressifs, de cet enfant, par ailleurs pâle et chétive. Or, ceux de ma belle fugitive sont semblables. « Et qui était cette petite fille ?» demanda Willy. « Une parente des Dourzaines, ses lointains cousins à nous, qui habitent Quad Bay. »« Eh bien, je vais d'abord chercher de ce côté. »« En effet, et vous t'aidera. » Willy glissa un regard sombre vers le Chinois qui, sur un signe de son maître, était demeuré debout près de la porte. « Je ne redescends pas. Tu diras à mon père que cette fête m'ennuie décidément trop. » « Bien, seigneur, dit William se levant, je vais commencer dès maintenant mes recherches de cette jeune inconnue et j'espère pouvoir vous dire son nom demain. » Il se pencha, baisa la main de Dougal et quitta la pièce. « Ou, je crois que tu me renseigneras avant lui. » « Oui, maître, oui. Dès l'aube, ton esclave cherchera les traces de la femme qu'il a vue s'enfuir, tandis qu'il veillait sur toi. » Quand, aux journées sans, les dames d'Ourzène réintégrèrent leur logis, Laurette alla crier à la porte de Gwen. « Levez-vous, Sophie, venez nous aider à nous déshabiller !» Sur son dur petit lit, Gwen n'avait pu trouver un instant de sommeil. Agitée, fiévreuse, elle ne parvenait pas à éloigner de son imagination surexcitée le souvenir des incidents de cette nuit, ni à détourner sa pensée du jeune prince asiatique, au sourire énigmatique, aux yeux tour à tour volontaires, fascinateurs, ou d'une troublante douceur veloutée. Puis, quoi qu'en eût dit Mademoiselle Herminie pour la rassurer, elle craignait qu'un hasard la mît en présence du vicomte de Pennansquet, ou bien qu'une des d'Ourzène l'eût reconnue, à sa démarche, à sa tournure. La voix de Laurette la fit sursauter fort désagréablement. Elle se leva, passa une robe et des chaussures et gagna la chambre où Rose et sa cadette commençaient d'enlever leur parure. Du premier coup d'œil, Gwen, dont quelque appréhension faisait battre plus vite le cœur, vit que ces demoiselles ne semblaient pas d'humeur satisfaite. Sans mot dire, elle se mit à aider Rose, dont les mains nerveuses froissaient la mousseline des voiles. Laurette, tout en quittant sa robe chinoise, grommela « Je voudrais tout de même bien savoir qui était cet hindou accompagné par Dougal de Pennansquet et avec laquelle il a disparu pour ne plus revenir. » Rose riposta avec un frémissement dans la voix « Quoi qu'en dise maman, je crois que c'était une véritable hindoue, sans doute une femme qu'il a amenée de là-bas, de sa principauté asiatique. » Mais il aurait pu, pour une fois, s'occuper un peu des autres, qui sont peut-être aussi bien que cette créature, et surtout de nous, ses cousines. « Je te crois, il a vraiment trop de désinvolture, » ajouta Laurette, plus acerbe. « On voit qu'il est accoutumé de faire ses 36 fantaisies et de vivre parmi les orientaux à demi-esclaves. Son père est heureusement plus agréable. Quant à la comtesse, c'est une froide et hautaine personne, » dit Madame d'Ourzène. Elle venait d'apparaître au seuil de la porte qui séparait sa chambre de celle des jeunes filles. Déjà, son kimono japonais en soie ramagée d'or avait été échangé contre une robe de chambre. Elle semblait lasse et surtout fortement mécontente. « Oui, comme tu le dis, Laurette, il n'y a qu'Ivor de Pennansquet qui soit convenable là-dedans. Et encore, n'est-il pas d'un degré plus aimable pour nous que pour les autres? Mais ce jeune homme... « Ah, c'est trop fort, cette manière d'agir !» Le ressentiment faisait trembler sa voix. « Il ne vous connaît même pas, vous, ses cousines. Il n'a même pas attendu le moment où l'on devait se démasquer pour voir vos visages. Ce n'est qu'un impertinent personnage. »« Quel magnifique joyaux il avait !» soupira Rose. « Et quel air, quelle mine! Un vrai prince des contes orientaux !» Madame d'Ourzène dit rageusement « Oui, oui, mais je crois qu'il n'y a rien à faire. On ne peut pas le rencontrer, il nous dédaigne ouvertement. » Ces mots passèrent avec peine, entre les dents serrées par la colère. « Vous me tirez les cheveux, Sophie, » dit aigrement Rose. « Faites donc attention. Là, encore, vous êtes d'une maladresse aujourd'hui. » Madame d'Ourzène jeta un coup d'œil vers Gwen. Celle-ci, le visage un peu brûlant, les mains fiévreuses, tenait les yeux baissés, tout en enlevant la petite veste de velours rouge qui habillait le buste de Rose. « Elle le fait exprès, par méchanceté, » dit sèchement Blanche. « Naturellement, elle est furieuse que vous l'ayez fait lever. Tâche d'avoir des mouvements plus doux, mauvaise fille, si tu ne veux que je te punisse très sévèrement, comme tu le mérites si bien. » « Aïe, vous avez oublié d'enlever cette épingle, saute !» L'épaule de Rose venait d'être égratignée par une épingle demeurée inaperçue dans le corselet de velours. La main de Mademoiselle d'Ourzène s'étendit pour frapper le visage de Gwen. Mais des doigts fins la saisirent, l'immobilisèrent. « Vous n'avez pas le droit de me frapper !» dit sourdement Gwen. Et repoussant Rose, qui faillit s'étaler sur le parquet, elle sortit de la chambre, descendit rapidement l'escalier et s'enfuit jusqu'au fond du jardin. Là, elle s'assit sur un vieux banc de bois. haletante, les joues en feu, elle murmura « Non, cela ne peut plus durer! Cela ne peut plus durer !» La révolte, enfin, montait en cette âme qui, depuis des années, se contraignait à la patience, restait fière et muette devant les injustices, la malveillance de ces trois femmes par qui elle avait tant souffert. Aujourd'hui, une force inconnue s'agitait en elle. Le désir d'échapper à cette existence devenait plus ardent. Était-ce parce que, depuis quelques heures, des sentiments nouveaux, encore imprécis, s'agitaient en elle ? Oui, il lui semblait que, depuis cette nuit, elle était une autre Gwen, comme si un voile lui commençait à s'écarter devant elle. Une autre Gwen qui ne pourrait plus continuer d'être la servante maltraitée des dames d'Ourzen, parce que la conscience de sa personnalité s'éveillait impérieusement, peut-être aussi parce qu'elle savait maintenant qu'entre toutes les femmes présentes, Dougal de Penansquet l'avait choisie, elle seule, et qu'après sa fuite, il n'avait pas reparu parmi ses hôtes. Une joie mêlée d'orgueil gonfla son cœur sous la vieille robe, tout à l'heure passée à la hâte. Elle frissonna longuement. Était-ce la fraîcheur de l'aube qui s'insinuait en elle ? Oui, sans doute. Et puis aussi, un peu de fièvre, un peu de cette fièvre, de cet émoi grisant mêlé d'effroi qu'elle avait ressenti près de Dougal et dont elle ne s'était pas encore délivrée depuis lors. Un merle se mit à siffler dans un arbre voisin. Des coqs lançaient leurs claironnants appels. Un reflet de lumière paraissait au levant. Gwen, appuyée au dossier vermoulu du vieux banc, offrait à la fraîcheur du matin son visage brûlant. Elle ne voyait pas, à quelques pas d'elle, aplatie sur le sol, derrière les arbustes, formant la clôture entre Kermazinck et Coatbey, un homme au teint jaune, dont les yeux bridés, noirs et vifs, s'attachaient longuement sur elle. Comme il avait promis à son maître, où venait de retrouver promptement les traces de la mystérieuse fugitive. Vers la fin de l'après-midi, le Chinois parut sur la grande terrasse du château où le comte de Penansquet et Apadji se trouvaient en ce moment avec Dougal. Celui-ci, précisément, venait de leur conter la fuite de la belle inconnue, tandis que le thé leur était servi par une fine et jolie javanaise, vêtue de soie jaune et parée de gemmes précieuses. À l'apparition de vous, Dougal eut un bref sourire. « Nous allons avoir des nouvelles de cette jeune personne ombrageuse. Qui est-elle, vous ?»« Une cousine de M. d'Ourzen qui habite à la maison appelée Coatbey. Mais elle est traitée en servante, non en parente. Madame d'Ourzen l'a fait appeler Sophie Thebnin du nom de sa mère. En réalité, son vrai nom est Gwen d'Ourzen. » M. de Penansquet eut un tressaillement si léger que son fils ne s'en aperçut pas. Dans les yeux du brahmane passa une rapide lueur. « D'Ourzen, répéta Dougal, elle serait donc un peu notre parente ?» Le comte eut un geste affirmatif. « Ce doit être une fille d'Armael d'Ourzen qui fut officier de marine, puis donna sa démission pour épouser une chanteuse russe d'origine. Il mourut quelques années après à Shanghai. » Sa veuve vint habiter ici, où elle fut tenue en suspicion, car on ne connaissait rien de son origine et de son existence passée. Puis, un jour, elle fut trouvée morte, empoisonnée. Suicide, probablement. L'enfant restait seul, sans fortune. Hervé d'Ourzen prit sa tutelle. Et voilà, mon cher, tout ce que je sais de cette jeune personne. Puisqu'elle est sans famille proche et traitée en étrangère, sa disparition ne fera pas grand bruit. « Tu veux la faire enlever ?»« Oui, et transporter à Pavala. » La lèvre du comte eut un rictus d'ironie cruelle. « Bien, bien, cher enfant, tu es libre. Fais-en ton esclave préféré jusqu'à ce que ton caprice se détourne d'elle. » À cet instant, sur la terrasse, parut Willy. Il s'avança vers son maître qui lui demanda railleusement « Eh bien, tu l'as trouvé ?»« Rien encore, seigneur, mais j'espère bientôt. » « Inutile, vous m'a apporté les renseignements nécessaires. » Pendant quelques secondes, les yeux de Willy parurent presque noirs et ses lèvres tremblèrent. « Tu n'es qu'un maladroit !» poursuivit la voix, toujours froidement railleuse. « Cette jeune fille habite près d'ici et rien n'était plus facile que de la retrouver. » Willy, le front courbé, dit sourdement « Je vous supplie de me pardonner, Seigneur. » Dougal eut un méprisant mouvement d'épaule sans répondre. Sur un geste de lui, Willy s'éloigna, disparut. Tu vas retourner prochainement à Pavala ? Demanda Ivor de Pennansquet, tout en posant son cigare pour prendre sa tasse de thé. Oui, ces jours-ci. Je comptais m'arrêter quelque temps à Paris, mais je viens de changer d'avis. À cause de la belle Gwen, dit Apadji avec un demi-sourire. Dougal inclina affirmativement la tête. Apadji et moi, nous ne tarderons pas non plus à nous rendre là-bas, dit M. de Pennansquet. Eh bien, vous m'y retrouverez sans doute, répliqua Dougal en portant à ses lèvres la tasse de porcelaine chinoise remplie d'un thé ambré au parfum délicat. Il but lentement, tandis que son regard distrait s'abaissait vers la javanaise, étendue sur des coussins à quelques pas de là, et dont les yeux noirs s'attachaient à lui avec une craintive adoration. « Elle est blonde, cette petite dourzaine ?» demanda Ivor de Pennansquet. « Oui, mais d'un blond foncé aux reflets d'or très chaud, une nuance admirable. Les traits, aussi rapidement que je les ai pu voir, m'ont paru d'une rare pureté de ligne. » La beauté de ses yeux m'a frappé, mais surtout leur expression, si ardente, si vivante. Oh, je ne pense pas que ce soit une âme ordinaire que cette jeune personne-là. Et je crois qu'elle m'intéressera beaucoup pendant un peu de temps. » Sur ces mots, Dougal se leva. « À demain, mon père. Je vais faire une promenade en mer et je passerai la nuit sur le yacht. »« Bien, mon cher ami, quand fais-tu emmener la petite dourzaine ?» Où guettera le moment favorable. Ayant serré la main de son père et d'Apadji, Dougal s'éloigna en sifflant ses chiens qui vinrent bondir autour de lui. La javanaise disparut silencieusement, ainsi que le fidèle Vous. Il ne resta sur la terrasse qu'Ivor de Pennansquet et le brahman. Le comte reposa la tasse qu'il tenait encore entre ses doigts et regarda son ami. Eh bien, Apadji, que dis-tu des fantaisies du destin? « Sans que je l'aie cherché, la fille de Varvara va subir le même sort que sa mère. »« Oui, c'est étrange, » dit Apadji. « Tu t'es vengé terriblement de cette femme, et voilà que le sort la prolonge, l'intensifie cette vengeance, par-delà même la tombe de Varvara. » Une joie infernale brilla dans le regard du comte. « C'est parfait. Ah, Varvara, tu as échappé à ma domination !» Tu m'as insulté par des paroles telles qu'un homme de ma sorte ne les oublie jamais. Vois maintenant ce que va devenir ta fille, une esclave parmi les esclaves de Ankai, Raja de Pavala. Une esclave que le caprice du maître rejettera dans le néant, comme d'autres avant elle, et qui verra sa fierté, si elle en a, abattue, méprisée, son cœur torturé, toute sa personne morale, abaissée, piétinée. Comme toi, Varvara, comme toi. Dougal est mon fils et je l'ai élevé à mon image, je lui ai enseigné de quelle façon doivent être traitées les femmes, ce fléau de l'humanité. » La voix d'Ivor restait sourde, mais prenait une intonation violente, passionnée. Le brahman hocha approbativement la tête. « Oui, mon ami, nous avons tous deux pénétré Dougal de cet égoïsme sacré. Nous lui avons fait un cœur inaccessible à la pitié, insensible devant les larmes, les désespoirs, cherchant uniquement son plaisir et méprisant ce qui n'est pas lui-même. » Apadji fit une pause avant d'ajouter « Un orgueilleux, oui, un être volontaire, singulièrement énergique, sous un aspect de nonchalante indifférence, et puis aussi une âme fermée. » « C'est vrai, » murmura le comte. Enfant, il avait une nature pensive qui se livrait peu. Avec les années, elle est devenue hermétique. Rien ne semble l'émouvoir, le faire souffrir ou le passionner. Non, rien. Je ne retrouve pas en lui cette ardeur secrète, cette violence de sentiment que tu as toujours apportée à toute chose, Ivor. Oui, dans toutes tes entreprises, comme dans tes haines et tes vengeances. C'est vrai, répéta M. de Pennansquet. Faut-il donc en conclure que cet homme jeune, si bien doué en toute chose, pourvu d'une remarquable intelligence, est incapable d'éprouver une passion quelconque, de haïr comme d'aimer, de s'attacher fortement à une idée, à une ambition, comme tu l'as fait? Je ne sais, Apadji, je ne sais. Moi, son père, je dois avouer que je ne le connais pas encore complètement. Il y a en lui une part d'énigme. De l'énigme, c'est cela. Et parfois, en sa présence, une inquiétude vague me prend. Quand je vois surtout dans ses yeux un certain air de songe, quand il a un certain sourire, étrange, mystérieux, « Eh bien, Ivor, je me dis qu'il y a peut-être un Dougual que nous ne connaissons pas, qui a échappé à notre influence et nous réserve de désagréables surprises. » Ivor secoua la tête. « Ce sont là imaginations de notre part, mon cher ami, et craintes sans fondement. Dougual, dès son enfance, a été entouré d'adulation. En exaltant ainsi son orgueil, nous avons pris soin de lui dessécher le cœur, de le pénétrer du plus complet égoïsme pour qu'il reste insensible, cruellement indifférent devant la souffrance d'autrui et ne craigne pas d'asseoir, de maintenir sa domination par la terreur s'il est nécessaire. Nous l'avons, en un mot, préparé à régner sur ces foules asiatiques séculairement accoutumées à l'esclavage et au culte de dieux impassibles, énigmatiques, dont les effigies nous ont été transmises par la pierre et les matières précieuses. Il s'est fait ainsi une personnalité à part. Mais c'est une attitude, Apadji, rien qu'une attitude, certainement. Je l'espère, mais il ne serait pas le premier qui, parvenu au pouvoir, briserait les instruments de son succès. Les traits d'Ivor frémirent légèrement. Tu vois très noir aujourd'hui, Apadji. Pourquoi agirait-il ainsi? Nous serons toujours les plus dévoués agents de sa domination. L'intérêt lui commanderait de nous ménager, à défaut d'une reconnaissance que nous n'attendrons pas de lui, que nous ne pouvons pas attendre, puisque nous lui avons enseigné que tout lui était dû, que l'égoïsme était le plus sacré de ses devoirs. « Il a bien profité de nos leçons, » dit Apadji en se levant. « Trop bien, peut-être. Tu regrettes qu'il n'ait pas un peu d'affection pour toi, Ivor. » De nouveau, le visage du comte frémit. J'avoue qu'il m'est dur, parfois, de le voir aussi indifférent, aussi lointain. Son cœur est glacé, pour moi comme pour tous. Mais quoi? Je ne puis me plaindre, puisque je l'ai dirigé, ce cœur, puisque j'ai fait de cet enfant l'homme qu'il est aujourd'hui, dont je suis si passionnément fier. Sa voix, assourdie d'abord, vibra profondément à ces derniers mots. Apadji abaissa un instant les paupières, comme pour dérober l'éclair de sarcasme qui venait d'y luire. « Bien, très bien, Ivor. La sentimentalité n'a rien à faire chez toi. Je te quitte, ami. C'est l'heure de ma promenade quotidienne. » À travers les parterres, Apadji gagna le parc. Il marchait lentement, la physionomie pensive, avec un bizarre sourire d'ironie au coin des lèvres. Au tournant d'une allée, il se trouva en présence de Madame de Penasquet, appuyée au bras de sa fidèle suivante, Sanda. Le brahmane s'arrêta en s'inclinant. « Salut, Nourmal. Vous venez de faire votre promenade ?»« Oui, j'aime ce parc, » dit brièvement la comtesse. « Il est triste pourtant en comparaison des jardins de nos pays, éblouissant de couleurs et saturé de parfums. »«
Je ne sens pas cette tristesse. »«
Peut-être alors regrettez-vous que nous quittions Kermazinc, dans quelques jours probablement ?»
« Je n'ai pas de regrets ni de désirs, Apadji. Vous savez bien qu'Ivor a tout tué en moi. »
La voix restait calme, glacée. Les trois visages mats, que l'âge ne semblait pas toucher, gardaient son impassibilité coutumière. « Oui, je sais que vous avez beaucoup souffert, Nourmal. » Un éclair passa, à peine saisissable, dans les yeux sombres. Mais il n'y avait pas un frémissement dans la voix qui ripostait, froidement sardonique.
« Comment le sauriez-vous? Avez-vous entendu une plainte sortir de ma bouche ?»«
Non, mais je me doute bien qu'ayant aimé Ivor comme vous l'aimiez, aimant encore, sans doute, » elle l'interrompit du même ton de sèche ironie.
« Pourquoi sans doute? N'est-ce pas la coutume que les victimes d'Ivor continuent d'aimer leur bourreau? Parce que je suis sa femme, supposez-vous qu'il en doive être autrement ?»«
Non, je ne le crois pas, Nourmal. » Ivor est de ces êtres dont l'empire est indestructible. Et votre fils, pour cela, lui ressemblera. » Les lèvres, dont le rouge sanglant tranchait sur la mate blancheur du visage, eurent un long frémissement. « Votre fils, Nourmal, cet être comblé des plus beaux dons de la nature et qui, grâce à Ivor et à moi, sera un être supérieur. Cela ne peut-il pas compenser les souffrances que vous fait endurer votre époux ?
Ou même lui valoir ma reconnaissance? Mais oui, Apadji, qui vous dit que je ne la lui donne pas, complète, absolue? Sous les paupières demi-baissées, le regard scrutateur du brahmane cherchait en vain les yeux sombres allongés par une habile peinture. « Je sais tout ce que je dois à Ivan, pour moi et pour Dougual, je ne l'oublierai jamais. » La comtesse laissa passer un petit temps de silence, puis demanda, sur le même ton de calme froideur, « Dougual quitte-t-il aussi bientôt Kermazenk ?»« Avant nous, probablement. Il se rend directement à Pavala. Sans doute le verrez-vous avant son départ ?»« S'il lui plaît de le vouloir, oui. » Sur cette brève réponse, la comtesse inclina légèrement la tête pour saluer Apadji et reprit sa route d'une lente allure, la main toujours posée sur le bras de Sanda. Le brahmane la regarda s'éloigner. Il songeait en hochant la tête. « Celle-là est aussi mystérieuse que Dougual. Son amour pour Ivan fut autrefois comme une lave brûlante qui emportait tout. A-t-il résisté aux épreuves dont cet homme l'accabla ? L'ardente lave est-elle figée ou bien seulement contenue sous cette apparence impassible ? Ivor, lui, se croit toujours fanatiquement aimé, comme autrefois, quand elle aurait bravé ciel et terre pour lui plaire, pour qu'il ne la délaissât pas. Le brahmane eut un petit rire sourd en achevant à mi-voix. « Je sais ce qu'elle a risqué pour cela. »